Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangou, l'émission qui répond à vos questions. Le thème d'aujourd'hui porte sur la violence envers les enfants talibés et sur la protection du droit des enfants. Au Niger, de nombreux jeunes garçons quittent leur village et leur famille pour rejoindre l'école coranique qui enseigne à ces jeunes, communément appelés talibés, la religion, un apprentissage fondé essentiellement sur la mémorisation du Coran. Force est de constater qu'aujourd'hui, certains de ces talibés vivent donc une situation traumatisante. Ils sont violentés moralement et ou physiquement par les maîtres marabouts, qui parfois les exploitent au lieu de leur transmettre le savoir. Les droits de ces enfants se trouvent ainsi bafoués, tels que dictés par la Convention relative aux droits de l'enfant, notamment le droit à l'éducation, le droit aux soins de santé et le droit d'être protégé de toute violence. Ce soir, nous parlerons des types de violences chez ces enfants talibés. Comment donc les prévenir? Comment les protéger? Pour discuter donc, nous recevons dans ce studio El Hadj Mahamadou El Hadj Amadou, coordinateur de l'Observatoire des performances de l'école nigérienne Open, Rachida Bizo, secrétaire permanente du cadre consultatif nigérien des enfants et jeunes. À la présentation, Fatih Zakari. Bienvenue à toutes et à tous dans ce forum sur la violence contre les enfants talibés et protection du droit des enfants. D'entrée de jeu, je propose de suivre le président de l'Association des écoles coraniques de Diffa, Mamadou Hari, au micro de notre correspondant à Diffa lors de l'interpellation le 7 juin dernier des marabouts d'une école coranique de Diffa par la police après les plaintes de la population. Le marabout serait responsable de coups et sévices corporels sur ces talibés qui ont été admis au district sanitaire de Diffa.
Lorsque j'ai appris cette information, dans un premier temps, je n'ai pas cru. Après, quand je suis que c'est vrai, ça m'a beaucoup touché. Mais les choses ne sont pas telles qu'on les raconte. D'après les échos que j'ai eus, ce marabout était en voyage. À son retour, de façon exagérée, les gens lui ont raconté que ces talibés ont commis une faute. Il s'est fâché et leur a infligé cette correction qui n'est pas du tout normale. Nous condamnons cet état de fait. Ce n'est pas une pratique des écoles coraniques. Diffa est reconnu pour l'école coranique. Sur 10 ménages, les 8 sont pour des gens qui ont étudié le Coran. C'est un événement qui ne s'est jamais produit depuis nos ancêtres. C'est donc un accident. Que Dieu nous évite cela à l'avenir. Et nous attirons l'attention de nos parents. Il ne faut pas qu'ils donnent aux autres la chance de se moquer de nous.
Vous venez là donc de suivre le président de l'Association des écoles coraniques de Diffa, Mamadou Hari, lors donc de l'interpellation le 7 juin dernier des marabouts d'une école coranique de Diffa par la police après les plaintes de la population. Le marabout serait donc responsable de coups et sévices corporels sur ces talibés. Je fais donc le tour de table. Quelle analyse faites-vous de ces actes de violence sur les enfants dans ces écoles coraniques où on est censé leur inculquer des connaissances et des valeurs religieuses? Monsieur El Hadj Mahamadou, El Hadj Amadou, vous êtes le coordinateur de l'Open.
Merci, assalamu alaikum. Nous vous remercions de cette opportunité que vous nous offrez. Le président de l'Union des écoles coraniques de Diffa qui vient d'intervenir, nous étions en contact avec lui depuis les premières publications des images que nous avons suivies, parce que nous avons travaillé ensemble avec donc l'Union des écoles coraniques de Diffa dans le cadre du projet d'appui pédagogique aux écoles coraniques, initié et appuyé financièrement et techniquement par l'ONG internationale RNE, et qui a eu un financement du ministère allemand de la coopération et du développement pour les amener notamment à comprendre le respect du droit de l'enfant quand vous écoutez déjà sa réaction, c'était une réaction effectivement de révolte face à la bastonnade qui a été infligée aux enfants. Au-delà de l'argument qui a été donné, consistant à dire que le maître coranique a châtié ces enfants-là parce qu'ils sont accusés d'avoir perpétré des vols par les voisinages. Mais je pense que quand on examine les images que tout le monde a vues à l'époque, c'est qu'il y a des châtiments qui sont récents, il y a des plaies fraîches sur certains enfants. Oui, voilà. Et surtout les plus jeunes, d'ailleurs, qui doivent avoir moins de 7 ans. Et il y a des traces aussi des coups qui sont cicatrisées et donc qui paraissent plus vieilles. Alors, il faut ramener ça juste à un état de pratique. Et cet état de pratique n'est tolérable chez aucun individu. Et quel que soit par ailleurs l'ascendant qu'il a sur les enfants qui sont placés sous sa responsabilité. Et c'est pourquoi nous avons tous, et eux, les maîtres coraniques de Diffa, et vous, quand vous entendez la réaction du président, c'est pour dire qu'il ne faudra pas qu'à partir d'un fait que l'on généralise, pour dire que c'est tous les enseignants, tous les maîtres coraniques de Diffa qui pratiquent la même chose. Et quand on regarde l'histoire de l'école coranique au Niger, il y a naturellement les châtiments corporels, mais c'est à des degrés quand même raisonnable. C'est une pratique qu'il faut considérer, qui s'est passée dans un cas précis et qui doit servir de tremplin pour que d'autres n'aient pas la possibilité de perpétrer. Et c'est pourquoi nous leur avons dit de jouer leur rôle pour que le maître coranique, la justice soit faite.
Madame Rachida Bizo, quelle analyse faites-vous de ces actes de violence sur les enfants dans ces écoles coraniques?
Merci bien. Merci de nous avoir donné l'opportunité de venir donner notre point de vue en ce qui concerne ces différentes violences qui se sont passées dans la région de Diffa. De notre côté, au niveau de la CONID, par le temps, nous avons à chaque fois attiré l'attention des uns et des autres sur les faits que vous ne pouvez pas confier l'entière responsabilité de l'éducation de votre enfant ou de 30 à 40 enfants à un seul individu pour que l'éducation de ces enfants-là soit une éducation de qualité. Nous l'avons vu et nous continuons à le voir. Un seul maître coranique qui a à sa charge plus de 50 élèves, pour la plupart, il y en a qui passent, disons, 5 ans, 6 ans sans apprendre quelque chose, sans apprendre grand-chose du Coran alors qu'il a été envoyé pour ça. Les violences, ils sont multiples qu'ils exercent sur ces enfants-là parce que ces enfants sont pour la plupart obligés d'aller mendier pour pouvoir venir, d'aller mendier pour avoir une subsistance. Ça aussi, c'est une forme de violence. Pour un enfant qui, dans sa famille, n'a pas l'habitude de tendre la main, qui rejoint une grande ville et qu'on lui dit que pour pouvoir manger, vous devez aller tendre la main à quelqu'un, c'est une sorte d'humiliation pour cet enfant-là. Voyez-vous, nous ne sommes pas en train de dire que les enfants ne doivent pas être envoyés pour apprendre le Coran. Non, mais que les parents aussi doivent se mettre devant leurs responsabilités pour que ces enfants-là soient dans les conditions meilleures d'apprentissage. L'éducation est un droit pour l'enfant. Oui, l'éducation, que ce soit l'éducation coranique ou bien l'éducation, disons, à l'école, l'éducation des Blancs, c'est deux formes d'apprentissage qui se valent. Chacun, que ce soit l'éducation des Blancs ou que ce soit l'éducation coranique religieuse, c'est deux formes d'éducation qui sont tout aussi importantes pour notre société et qu'on pense qu'il faut valoriser. Pour que ces enfants-là soient protégés et que ces enfants-là soient mis à l'abri, il est important que les parents fassent un suivi de ces enfants-là. Les ONG, nous sommes en train de faire de notre mieux. Nous sommes en train de sensibiliser. Nous sommes en train de former pour que ces enfants-là puissent être mis à l'abri de ces différentes formes de violence. Vous avez vu le dos de cet enfant-là. Moi, je pense que ça n'excuse en rien que cet enfant-là ait commis une faute grave ou pas, qu'il soit bastonné de la sorte. Parce que c'est des blessures qui peuvent conduire à la perte de la vie d'un enfant. Ces genres de sévices-là, quand ils sont commis sur un enfant de moins de 7 ans, 8 ans, c'est que, à la longue, l'enfant-là, qu'est-ce qu'il va devenir? C'est une situation qui encourage ces enfants-là à devenir des délinquants.
Donc, Monsieur El Hadja Mahamadou, El Hadja Amadou, vous êtes le coordinateur de l'Open. Qu'est-ce qui explique donc cette violence exercée par certains marabouts sur ces talibis?
De notre point de vue, quand on regarde le contexte des écoles coraniques dans notre pays, on est amené à se dire qu'il y a d'abord la précarité qui sévit dans ce milieu-là. Précarité du maître coranique, précarité des enfants, des apprenants qui sont placés sous leur responsabilité. Donc, c'est la précarité de façon générale qui est le premier facteur. Les maîtres coraniques, quand vous regardez un peu, c'est d'abord des cultivateurs quand ils sont dans un milieu sédentaire. C'est aussi des éleveurs quand ils sont dans un milieu nomade. Et le moment qui est consacré à l'éducation des enfants est un moment qui doit être considéré par eux un moment de temps mort. Et c'est pendant ce temps mort-là qui s'applique à ça. Mais quand vous regardez, aucun parent ne donne grand-chose au maître coranique. Il y a ce qu'on appelle la dîme du mercredi. Mais la dîme du mercredi, même ici à Niamey où les gens sont nantis, vous êtes prêts à l'école d'investir des millions pour l'école de votre enfant. Mais quand c'est le maître coranique chez qui vous avez amené votre enfant exige 1000 francs par mois, vous trouvez déjà que non, à ce marabout, il commence à abuser, il commence à demander trop. Or, de quoi va-t-il survivre pour pouvoir faire ce travail-là à votre place?
Oui, mais est-ce que donc le châtiment corporel donc, est permis dans l'éducation donc, coranique?
Vous savez, le châtiment corporel, c'est d'abord une perception. C'est quoi le châtiment corporel? Que ce soit chez un enfant, que ce soit chez la femme par rapport à son mari, que ce soit le châtiment corporel n'est pas une prescription pour que vous fassiez un acte, vous posiez un acte qui puisse rendre l'autre handicapé. Même en termes de femme et époux, on a dit qu'il est autorisé de frapper, mais on a bien donné, on a circonscrit le châtiment. Le châtiment, et quand vous considérez l'état moderne que le Niger, c'est que le châtiment corporel est interdit dans toute institution scolaire. C'est interdit. Si vous le faites à vos risques et dépens. Vous allez payer si ça sort. Si vous châtiez l'enfant sans que ça laisse de traces, sans que ça n'inquiète personne, bon, tant mieux. Mais le jour où ça va se savoir, vous allez payer. Parce qu'il n'y a rien qui vous protège, vous qui appliquez le châtiment corporel. L'islam ne vous protégera pas de pouvoir handicaper un enfant parce qu'il est soumis sous votre autorité de maître. Quand vous venez, ça c'est encore que l'institution des écoles coraniques, c'est une institution dans laquelle c'est maintenant que l'État commence à s'intéresser. Tant que les maîtres coraniques, les talibés, les oulémas, les cheikhs, etc. Restent de leur côté, pour les hommes politiques, pour les dirigeants du pays, bon, ils peuvent s'en accommoder. Le jour où vous allez voir qu'on fait un balai vers eux, c'est quand il y a élection ou bien quand il y a un problème. Il faut venir prier pour que la paix redescende dans le pays, pour que ceci, pour que cela. Après ça, il n'y a rien. Et c'est maintenant que c'est en train de se mettre en place, aussi bien dans le secteur de l'éducation qu'au niveau du ministère de l'Intérieur.
Nous venons donc de recevoir Mme Souleymane Ramatou Albadé, chef de division renforcement du système national de protection de l'enfant au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Madame Souleymane Ramatou, bonjour.
Bonjour.
Madame Souleymane Ramatou, quels sont donc les types de violences dont sont victimes les talibés et les cas fréquents que vous avez enregistrés?
Rebonjour. Donc, moi, avant de rentrer dans de répondre à votre question, j'aimerais quand même définir ce que c'est que la protection de l'enfant. Donc, protéger un enfant, c'est de prévenir et de répondre à toute forme de violence, maltraitance, abus, exploitation dont sont victimes ces enfants. Je veux vous dire aussi que notre ministère a pour mandat de protéger aussi les enfants, toutes les catégories d'enfants vulnérables. Et je m'en vais vous citer un certain nombre d'enfants dans lesquels vont se trouver les enfants talibés. Parce qu'au niveau du ministère, au début, on était à une approche catégorielle qui visait à prendre en charge une catégorie d'enfants spécifique. On catégorisait les types d'enfants. Mais maintenant, on a évolué vers une approche globale, une approche systémique qui consiste à prendre en charge l'enfant dans sa globalité, dans sa totalité. Je vous disais que les cibles de notre ministère, c'est les enfants très fortement exposés aux violences, exploitations et abus, négligence Et dans ce groupe, on trouve les enfants talibés. Pour vous dire que donc on est passé de l'approche catégorielle à l'approche systémique, une prise en charge holistique de l'enfant. Donc, enregistrer des cas, oui, au niveau du ministère, on a aussi évolué dans le système de collecte des informations pour que les informations nous reviennent de niveau régional. Parce qu'au niveau du ministère, nous, on coordonne ce que font nos régions. Donc, pour avoir la remontée des informations au niveau des régions et des départements, on a fait une restructuration qui fait en sorte que les services ont été très bien organisés et on a défini des périodicités de remontée de l'information. Donc, c'est au niveau du département, il remonte les informations au niveau de la région et la région remonte les informations au niveau national. C'est comme ça que nous rentrons en contact avec les différents cas, mais on ne spécifie pas, on met telle catégorie d'enfants, telle catégorie qu'on veut, voilà tel nombre d'enfants qu'on a touchés. Et ces services ont été réorganisés et on a eu des sessions de formation, à peu près 300 et quelques heures de formation pour les travailleurs sociaux qui sont dans les services déconcentrés pour la prise en charge de ces catégories d'enfants-là, dont les enfants talibés. Donc à l'heure actuelle, vraiment, je ne saurais vous dire exactement le nombre d'enfants que nous avons eu à prendre en charge. Les enfants, de façon globale, sont victimes de négligence, d'abus, exploitation et maltraitance. Donc, il y a les violences physiques, les violences psychologiques, tout ça là, les enfants talibés les subissent. Donc, ça, c'est vraiment des types de violences physiques. Il y a les VBG aussi, les pratiques traditionnelles néfastes que subissent les enfants aussi. Et même, je me dis, même les enfants talibés sont exposés à ces types de violences.
Nous venons donc à l'instant de recevoir Oustaz Mustapha Ahamadou, marabout prédicateur à Niamey. Bonjour Oustaz.
Bonjour madame.
Avec vous donc, nous allons donc revenir sur une question donc ou deux déjà posée donc aux invités. Et que dit la religion musulmane en matière d'éducation?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. L'éducation de l'enfant, c'est quelque chose de très complexe. D'abord, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il te donne un enfant, il dit que c'est un dépôt que j'ai fait chez toi. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِأَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا. Allah vous ordonne de remettre aux ayants droit, donc les dépôts. Au dépôt, c'est qu'il la revient. Ça veut dire que les enfants sont un dépôt chez nous, les parents, la société, comme elle a dit, et tout le monde, la communauté, et tout le monde. Donc l'enfant, c'est un dépôt. Ce n'est pas une propriété. Ça veut dire que son éducation doit être parfaite. Et doit être le premier acte que tu devrais faire vis-à-vis de l'enfant. Et l'éducation, c'est pas d'abord, c'est avant même d'être mis au monde. Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il faut éduquer l'enfant avant qu'il ne vienne au monde. Comment? Et il y a des hadiths qui ont expliqué, par exemple, la maman qui porte dans son ventre un enfant, elle l'éduque parce qu'il sollicite certaines positions dans son ventre. Je ne suis pas un médecin, mais je sais que c'est comme ça. Donc, il sollicite l'enfant, le fœtus qui est dans son ventre. Il nécessite une position. Si elle n'a pas appris chez sa maman, comment elle va faire? Elle va passer à souffrir. Et lui, il va toujours la piétiner, il va la bousculer. Il faut qu'il lui serve ça. C'est une éducation.
Oui mais est-ce que donc le châtiment corporel est permis?
Venons-en. Mm-hmm. Le châtiment corporel c'est pas une question de permis, il est strictement interdit. Il y a un verset ici, le verset 179 de la sourate de la table servie. Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a institué, Allah a institué pour régler la question des châtiments sur les innocents, sur les âmes vulnérables, n'est-ce pas? Donc, les talions, la loi des talions est applicable sur les humains pour protéger, effectivement, pour éviter la violence. Et dans ce verset, Allah a dit que et c'est dans les talions que vous aurez la préservation de la vie. Oh, vous doués d'intelligence, ainsi atteindrez-vous la piété. C'est ça,
de talion, la loi de talion est pour et dent pour dent. Si tu es coupable de, comme l'a dit l'article, l'article je crois 14 de la constitution de ce pays, le châtiment devrait être physique. En public même, on devrait te faire le même châtiment. Donc, c'est pour vous dire que l'islam a proscrit la violence sous toutes ses formes. Et qui ne quoi? Par exemple, mes kunwanzomo ou mes tama ou mes gateri ou des trucs comme ça. Quoi. Donc, c'est interdit en islam. C'est interdit. Donc, c'est le premier droit d'un enfant sur ses parents pour éviter la violence, effectivement. Parce que ça, c'est une violence. Hein. En islam, je veux dire, c'est de lui donner un bon nom. Ensuite, aider par faire son éducation, lui donner une bonne éducation. Et l'étape d'éducation maintenant, qu'est-ce que les compagnons du prophète ont dit? Et Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qui est le troisième calife après donc Abou Bakr Siddiq, le deuxième, pardon, après Abou Bakr Siddiq. Donc, il dit Rabbi Hisab'un, éduque-le ou là, Satan. L'éducation parentale. Je vous ai parlé des ventres là. Depuis le ventre jusqu'à sa naissance, jusqu'à l'allaitement. C'est une éducation. On apprend à un enfant comment il va téter, comment il va goûter, comment il va s'asseoir, comment il va regarder, comment il va lever son doigt, comment il va faire bouger ses doigts. Tout ça là, c'est l'éducation. Donc, Satan. De la naissance jusqu'à 7 ans, l'éducation parentale dans la maison. Vous êtes tenus, père et mère, de les faire à la fille comme à garçon à part égale. Il dit, après ça, il faut l'orienter à l'école de dehors et le suivre, bien sûr. L'éducation, c'est ensemble avec les maîtres et les parents. C'est ensemble, vous avez cette tâche-là. Pendant 7 ans, il faut l'amener à l'école, suivre l'école de dehors, là, qui n'est pas l'école de la famille. Il faut aller là-bas, il faut veiller, il faut aider les maîtres, il faut demander qu'est-ce qui ne va pas, où est-ce que je peux t'aider, monsieur le maître, où est-ce que je... Tout ça, là. Pendant 7 ans, l'enfant a ses droits sur les parents, et les parents ont le devoir de lui offrir. Et il dit maintenant, « Warafiqou sab'un » et accompagne-le ou là, 7 ans. C'est-à-dire être son compagnon. La maman va avec sa fille, elle lui apprend comment est-ce qu'il faut supporter la grossesse, comment on fait avec un mari, comment on fait une bonne sauce. Maintenant, si vous me dites de faire une sauce, je ne sais pas pour où commencer. Donc, comment on garde son mari, les biens de que tu as, si tu es parti avec ton héritage ou ton bien là, comment tu vas les garder, les séparer avec celui de ton mari, tout ça là. Bon, donc pendant 7 ans, tu vas faire ça, toi la maman et le père, il va au service avec son enfant, ainsi de suite quoi. Donc pendant 7 fois 3, 21 ans, et dit summa itrukulahu al-habla al-arib. Donc en ce moment, laisse lui les fils conducteurs. C'est en ce moment que l'islam juge un enfant majeur.
Les droits donc de l'enfant leur garantissent fondamentalement le droit à la vie, le principe de non-discrimination, le droit à la dignité à travers la protection de l'intégrité physique et mentale. Madame Souleymane Ramatou Albadé, donc vous êtes chef de division renforcement du système national de protection de l'enfant. Qu'est-ce que vous faites donc dans le cadre de la protection du droit des enfants?
Ce qui est fait en termes de protection de l'enfant, là je peux vous dire qu'il y a eu une restructuration qui est réfléchie depuis les années 2014. Auparavant, il y avait des services déconcentrés qu'on appelait des CEJUP qui jouaient le rôle au niveau le plus déconcentré et qui étaient plus en contact avec les cibles. Donc cette restructuration, elle a abouti en 2017 à la création de ce qu'on appelle les centres de promotion, de prévention et de protection. Ces centres vont, chaque centre a à son niveau un chef de service et 3 services. Donc et au niveau de chaque service, il est prévu 2 agents. Mais vu le nombre limité de personnel que nous avons, on n'a pas pu vraiment opérationnaliser ces centres. C'est seulement à DIFA, compte tenu du contexte que tout le monde connaît de DIFA, que ce centre a été financé par l'Union européenne via UNICEF. Ils ont construit un CEP à DIFA, un CEP à Méné. Et face à la situation de la région de Zender, qui est la migration des femmes et des enfants, nous avons aussi un partenaire qui est OIM, qui a financé un centre dans le département de Kanti. Donc eux, ces centres-là, eux, ils répondent au dispositif que j'ai décrit tout à l'heure. Vraiment, c'est les 3 services auparavant qui étaient opérationnels. Et chaque service, il y a un service action sociale, un service communication pour un changement de comportement et un service pris en charge des enfants, un service de protection qui est là pour prendre en charge, pour répondre aux besoins des enfants vulnérables. Les cibles là que je vous ai citées tantôt. Maintenant, comment se fait le travail concrètement sur le terrain quand un enfant se présente au niveau du service de protection ou bien l'enfant il est en contact avec nos services, soit par auto-présentation, soit par signalement ou par détection active. Détection active veut dire que c'est le travail social lui-même qui est allé sur le terrain. Ils sont censés sortir le jour ou la nuit pour détecter des cas d'enfants qui ont besoin de protection. Maintenant, ils prennent en charge l'enfant. Et cette prise en charge, je vous avoue, elle est assurée par l'appui de notre partenaire que je tiens à féliciter ici à travers vos micros, qui est l'UNICEF. Cette prise en charge, elle est garantie par l'UNICEF. Donc, voilà ce qui se fait. Et dans les autres localités où les CEPLA ne sont pas encore opérationnels, ne sont pas encore créés, mais quand même les agents sont là, ils jouent le même rôle, mais pas autant que dans les régions où tous les services sont disponibles.
Oui, mais est-ce qu'il y a eu une donc, avancée significative dans ce sens?
Oui, l'avancée dans ce sens, c'est vraiment la création de ces centres et l'opérationnalisation de ces centres-là. Les avancées, il y a eu la formation de tous les travailleurs sociaux qui étaient dans 50 départements du Niger, tous les travailleurs sociaux, y compris ceux qui sont au niveau central, ils ont été formés. Et il y a la création de ces centres-là. Et maintenant, on est en train de voir là où il n'y a pas ces centres, je vous disais que les travailleurs sociaux, ils jouent le même rôle. Maintenant, les cibles que j'ai citées, dont font partie les enfants talibés, s'ils vont au niveau de nos services, ils sont pris en charge. Et il y a le lien qui est fait entre le travail social et les familles de ces enfants. Et nous travaillons aussi avec les avancées, ce que nous travaillons, on collabore beaucoup avec tous les acteurs qui interviennent dans le domaine de la protection. On a au niveau du ministère un cadre multi-acteurs qui est là, qui accompagne le processus.
Donc, Rachida Abizou, secrétaire permanente du cadre consultatif nigérien des enfants et jeunes. Venez là donc de suivre Mme Souleymane Ramatou Albadé, chef de division renforcement du système national de protection de l'enfant, sous donc les actions menées par le ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Qu'en pensez-vous donc de la protection des droits des enfants au Niger?
Au fil des années, nous avons constaté qu'il y a une grande avancée dans le cadre de la protection des enfants. Mais malgré tout cela, il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire parce que jusque-là, les enfants ne jouissent pas effectivement de leurs droits. Je dis cela et je pense à l'éducation. Le droit à l'éducation, il est garanti par l'article 4 de la 4BE, de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, que justement, nous venons tout juste de célébrer le 16 juin, la journée africaine de l'enfant aussi. Et pendant cette journée-là, nous avons eu à faire une analyse, disons un bilan de ce qui a été fait et de ce qui reste encore à faire. Et je vous assure qu'il y a beaucoup à faire. Nous parlons de gratuité de l'éducation et de l'accès de l'éducation à tous. Mais jusque-là, parlons aussi de la qualité de l'éducation. Parce que vous savez que les enfants, c'est vrai qu'ils partent à l'école, il y en a qui sont envoyés à l'école, mais à quel niveau est-ce que ces enfants-là arrêtent? Parfois, ils sont déscolarisés au niveau après la classe du CM2. D'autres fois, ils arrivent à atteindre le secondaire. Et pour les chanceux, disons, les plus chanceux iront à l'université. Mais c'est vraiment, disons, une portion très minime. Le droit de l'enfant à la santé. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des années de cela, avec l'appui de l'UNICEF, le gouvernement nigérien est arrivé à instaurer, disons, un programme de prise en charge des enfants de 0 jusqu'à l'âge de 5 ans. Ce programme-là avait beaucoup aidé les populations, surtout les populations vulnérables. Mais aujourd'hui, à savoir, où en est-il? Où est-ce que nous en sommes? Nous parlons de droit de l'enfant à une identité, à une nationalité. Tout à l'heure, Oustaz a eu à le rappeler. Plusieurs enfants, ce n'est pas les enfants seulement. Dans certains cas, c'est les parents même qui n'ont pas d'acte de naissance. Même les parents des enfants qui n'ont pas d'acte de naissance. Parce qu'il y en a qui, ils naissent dans un terroir, ils grandissent et ils meurent là-bas, dans le même territoire. Pour ceux qui arrivent à envoyer leurs enfants en ville, ces enfants-là viennent. D'autres n'ont pas d'acte de naissance, n'ont pas de carte d'identité. Comment est-ce que ces enfants-là
peuvent être, disons, prises en charge. Parce que, disons, ils sont des enfants fantômes. L'État nigérien ne les reconnaît même pas parce qu'ils ne sont pas déclarés à la naissance. Alors que c'est un droit primordial, un droit qui est fondamental à l'enfant. Voyez-vous ? Donc, tout cela, vraiment, est, disons, ceci représente un véritable problème qu'il faut solutionner. Les enfants, aujourd'hui, font face à beaucoup de, disons, beaucoup de problèmes, de beaucoup de difficultés. Parce que non seulement certains, pour leurs parents, ils ne connaissent pas les droits des enfants et les enfants eux-mêmes ne connaissent pas leurs droits. Pour arriver à défendre quelque chose, il faudrait d'abord commencer par le connaître. Et ils n'arrivent pas à se défendre parce qu'il y en a qui ne connaissent pas leurs droits. Si un de ces droits-là est violé, je pense que si l'enfant connaît son droit et qu'un de ces droits-là est violé, l'enfant peut interpeller son parent, lui dire il y a telle et chose qu'on devrait faire et qu'on n'a pas fait. Ceci devrait interpeller le parent.
Voilà. Monsieur Elhaj Mahamadou, Elhaj Amadou, qu'en pensez-vous donc de la protection des droits des enfants au Niger?
Oui, Rachida m'a avancé sur le terrain, mais c'est vrai, il y a eu vraiment assez d'avancées. En matière, dans le secteur de l'éducation, je pense qu'à ce niveau, il faut surtout le dire, de plus en plus, même les catégories d'enfants qui étaient plus ou moins oubliées connaissent des réformes qui feront en sorte qu'ils seront de plus en plus pris en charge. Et ça, c'est le secteur de l'éducation, mais également au niveau du ministère de l'Intérieur. Et il y a eu, en 2019, deux actes très forts. Le premier, c'est vrai que c'est dans le domaine religieux, de façon globale, parce que l'enseignement confessionnel, c'est un pan de ce domaine religieux. Il y a eu deux éléments fondamentaux. C'est d'abord, c'est l'adoption d'une loi qui va en matière de culte en République du Niger. Vous vous souvenez ce que ça a fait comme vague, mais par la grâce de Dieu, le vote des députés était un vote écrasant pour l'adoption de cette loi. Et juste après la loi, il y a eu le décret d'application et la mise en place d'une stratégie nationale qui a concerné le volet enseignement confessionnel. Ça veut dire que dans le cadre de ces réformes-là, une direction générale qui a été érigée, il y a une direction qui est consacrée à l'enseignement confessionnel. Et dans le cadre de la stratégie, il ne s'agit pas seulement de faire l'enseignement confessionnel, mais il s'agit de développer autour de l'enseignement confessionnel des stratégies autour des thématiques nouvelles. Les thématiques de genre, les thématiques de châtiment corporel à travers les violences sous toutes leurs formes. Ce sont ces stratégies qui ont été mises en place et élaborées. Donc, il faut se féliciter que la situation qui était un moment mi-figue, mi-raisin est en train d'être prise en charge pour que l'État puisse voir qu'est-ce qu'il peut faire. Il est clair que l'État ne pourra pas tout faire. Il faut redescendre au niveau de la communauté, il faut redescendre au niveau de la famille et il faut redescendre au niveau des individus même. Qu'est-ce que, individuellement, les Nigériens peuvent apporter à leur pays, que ce soit dans le cadre de la prise en charge des enfants, de leur protection, tout cela, c'est également un chantier qui est là. Mais je pense que ça va permettre, peut-être dans les années à venir, d'amoindrir les choses. Mais il faut travailler autour des communautés, il faut travailler à la sensibilisation et à la formation.
Et quels sont donc les défis et les perspectives? Je fais donc le tour de table. Je commence donc par vous. Madame Rachida Abizo, vous êtes secrétaire permanente du cadre consultatif nigérien des enfants et jeunes.
Merci bien. En ce qui concerne les défis, je pense que tout à l'heure, j'ai déjà commencé à les énumérer. J'ai déjà commencé à parler du défi d'éducation, de protection, du fait de l'accès à une identité aux enfants. Tout ceci constitue un défi pour nous que dans les années à venir, nous espérons pouvoir les relever. Perspective. Nous sommes en train de collaborer avec des ONG, le ministère Et beaucoup est en train d'être fait. Beaucoup est en train d'être fait. Et je pense que même avec les textes adoptés par l'État nigérien, récemment, il y a le décret portant la création des comités de protection de l'enfant. Donc, je pense que tout ceci pourrait permettre d'apporter une amélioration considérable dans le cadre de la protection des enfants. L'existence de ces comités-là pourrait être un atout pour que nous puissions atteindre les enfants qui sont, disons, très éloignés. L'enfant qui est à Bilma, l'enfant qui est à Meini, pourquoi pas. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose à féliciter. Ça serait vraiment une bonne chose si ces comités pouvaient être accompagnés et cela nous permettrait d'aller plus de l'avant et que c'est le Niger, qu'on puisse avoir un Niger qui est digne de ses enfants.
Vous savez, le défi est grand parce que la responsabilité de gérer un enfant, c'est une responsabilité collective. Malheureusement, en islam, on dit que si dans cette gestion-là, un rôle a été mal joué ou bien n'a pas été joué, c'est que le problème reste entier. Si par exemple l'État joue son rôle et que toi, le papa, tu ne joues pas ton rôle, c'est zéro. Si les membres de la communauté ne jouent pas leur rôle, comme a dit quelqu'un tout à l'heure, donc quelqu'un peut voir par exemple ton enfant faire les choses là, s'il le corrige, ce serait la guerre. Donc si un rôle n'a pas été joué, en tout cas, dites-vous que nous allons rester dans ce cercle infernal des problèmes que nous regrettons mais que nous n'arrivons pas à faire l'unanimité. Parce que ici, lorsque Allah a dit qu'il a dit, Allah vous ordonne, sans nommer, il vous ordonne, vous les autorités, parce que vous avez des êtres, vous les juges, vous les médecins, vous la communauté, vous ceci, vous les ministères, vous, tout le monde, tous ceux qui ont la responsabilité, ça veut dire que tous les gestionnaires de la cité. Donc si un rôle n'a pas été joué, on va toujours tourner à rond. Donc moi je dis que les défis, on va vraiment les lever, mais ça va prendre le temps que ça va prendre. Maintenant, je vais vous dire...
Le temps est contre nous, je suis même...
Donc, je résolve, mais oui. En espérant qu'il y aura une occasion aussi, pour vous dire... Mm-hmm. Vous savez, c'est un sujet très sensible.
Monsieur El Hadji Amadou.
Je pense que les défis, c'est que tous les droits de l'enfant sont en réalité un défi pour nous. Mm-hmm. En termes de perspective... Oui. C'est vraiment la présence de l'État et en termes de réformes, d'élaboration, de mise en place des réformes, d'encadrement. Parce que quand vous voulez, même si vous avez la volonté de travailler dans un domaine que l'État n'a pas déjà réglementé, ça devient un problème. Donc je pense que la présence de l'État à travers la réglementation, à travers la prise en charge de toutes les réformes possibles, les stratégies à mettre en place, c'est vraiment notre attente en termes de perspective pour permettre à ce que, pour revenir à mon sujet, aux écoles coraniques, pour permettre aux écoles coraniques de jouer véritablement le rôle de moteur de développement dans notre pays.
Madame Souleymane Rahmatou, chargée de diffusion, renforcement du système national de protection de l'enfant au niveau donc du ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Quelles sont donc vos difficultés et les défis à relever?
Merci. Je reviendrai un peu sur la restructuration qui a lieu au niveau du ministère. Cette restructuration vise à approcher nos services de la communauté. Et pour ça, le défi majeur au niveau du ministère, c'est vraiment le manque de personnel. Ça, c'est un défi majeur. Et en termes de perspective, qu'est-ce qu'on vise en termes de perspective? C'est vraiment la création de ces services-là au niveau de tous les services déconcentrés. On veut que tous les services déconcentrés soient érigés en CEP pour mieux répondre aux besoins des enfants.
Nous sommes donc à la fin de ce forum sur la violence sur les enfants en talibé et protection du droit des enfants. Vous avez donc suivi l'intervention donc de nos invités par rapport à ce sujet. Malgré les avancées significatives enregistrées, il reste donc beaucoup de défis à relever. Nous étions en compagnie de Oustaz Mustapha Ahmadou Marabout, prédicateur à Niamey, El Hadji Mahamadou, El Hadji Amadou, coordonnateur de l'Observatoire des performances de l'école nigérienne Open, Rachida Bizo, secrétaire permanente du cadre consultatif nigérien des enfants et jeunes, et Madame Souleymane Rahmatou Albadé, chef de division renforcement du système national de protection de l'enfant au ministère de
de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. La présentation est assurée par Fatiza Kari et la régie son Ntiambiano Abdelkader.